Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM. Bonjour et bienvenue au chaudron. Lorsque je me suis demandé de quoi j'allais vous parler, j'avais en tête la dernière émission réalisée avec Arthur sur le Chili. Cette histoire chilienne qui se termine bien mal en 1973 faisait un clin d'œil à l'actualité. Une attaque tous azimuts de la démocratie, l'omnipotence des États-Unis, la violence et bien sûr la diffusion des informations, les manipulations orchestrées par la droite et les États-Unis. Et quand on parle des États-Unis et qu'on voit le duo de choc Trump-Musk, on se dit que la situation défie les pires prévisions. Tout cela pour vous dire que j'ai donc eu envie de vous parler information et plus précisément de la presse aujourd'hui. Personnellement, désolée, je ne vais jamais sur les réseaux sociaux et je m'informe via la radio et la presse. Je vais donc parler de la presse écrite. Eh oui, on ne se refait pas. J'aime le papier. D'ailleurs, voici un petit texte qui en parle joliment. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas? Elle ne te revient pas? Toi qui me ziutes, rassure-toi. Ton regard sur mes lignes me flatte. Il se pourrait même que naisse entre nous une certaine complicité. Nous verrons. Tu peux avoir confiance sur un point. Tel que je suis, je resterai, condamné à m'assumer tout entier et à jamais, y compris quand je débute par une citation de Johnny Hallyday. Les mots qui défilent actuellement, sous ton œil, curieux, sont comme tatoués sur ma fibre. Je ne peux les renier. Cette honnêteté ne fait pas de moi un ange. Je peux véhiculer les phrases les plus sublimes comme les plus abjectes. Je ne suis finalement qu'un médium permettant de faire circuler des idées et je bénéficie pour cela d'une souplesse absolue. D'Émile Zola dans l'Aurore à Pascal Praud dans le journal du dimanche, peut-on trouver plus immense grand écart? 4 siècles que j'existe. Si je me tatoue ces réflexions aujourd'hui, c'est que je vois bien certains, certaines me regarder de travers ou, pire, ne même plus me regarder. Cela me déchire. Je serai désuet, dépassé à l'article de la mort parce qu'un plus jeune me damerait le pion, le numérique. Lui serait plus rapide, moins cher, plus moderne, plus écolo, plus agile. C'est vrai. Sur le web, on peut à toute heure du jour ou de la nuit modifier un écrit. Alors quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Inadaptée à leur monde liquide? Eh bien, je le revendique. Je ne prends pas la forme du récipient dans lequel on me verse. Je suis du genre solide, ce qui est précieux quand certains tentent de réécrire l'histoire. Et puis quoi? Elle pollue, ma gueule? Sans doute. Pour faire du papier, il faut abattre des arbres ou recycler du papier qui en aura déjà abattu. Pour imprimer ces mots, il faut faire tourner des rotatives qui consomment de l'énergie. Et puis, avant de me retrouver là, entre vos mains, j'ai voyagé. En train peut-être, en voiture sûrement. Non, mon bilan carbone n'est pas neutre. Celui d'un média numérique l'est-il? Non plus. Plus personne ne l'ignore. Le numérique est une industrie qui exige de gigantesques quantités d'énergie et de matières premières, à quoi il faut ajouter l'exploitation humaine qu'elle engendre en divers endroits de la planète. Alors, qu'il se regarde un peu dans un miroir le très smart numérique avant de se foutre de ma gueule. Je suis même à peu près certain d'être moins polluant que lui et sa prétendue dématérialisation. Et je l'assume, mon empreinte écologique. J'accuse de Zola valait bien l'abattage de quelques arbres, non ? La démocratie, ou ce qu'il en reste, a besoin d'informations et de débats pour survivre. Il faut accepter qu'elle ait un coût, y compris environnemental. Me voilà qui fais de la politique. Moi qui suis censée n'être qu'un support, il faut dire que je ne suis déjà plus une page blanche. D'ailleurs, ne suis-je pas intrinsèquement politique ? Cher lecteur, chère lectrice, si tu te trouves dans un lieu public, lève les yeux et observe tes congénères. À quel spectacle assistes-tu ? Je parie qu'une bonne moitié des gens sont absorbés par leur ordiphone, tête baissée, comme absents du monde réel. Dans les rues, à la nuit tombée, guette les fenêtres. Tu verras s'en échapper des lumières mouvantes, témoins d'autant d'écrans diffusant des vidéos. Questionne tes proches sur leur vie professionnelle. La plupart se diront contraints de passer des heures devant un ordinateur. Les privés d'emploi ne sont pas mieux lotis, obligés de passer par le net pour communiquer avec France Travail, ex-Pôle emploi ou la CAF, tout comme d'autres démarches administratives. Au travail, dans la rue, au domicile, partout, à tout moment, ils sont là et s'accaparent notre temps, les écrans. Ce n'est pas une mode, c'est un bouleversement anthropologique. L'humain devient bouffeur de lumière bleue, jamais présent, toujours ailleurs, incessamment happé par les notifications, des messages d'un tel, des mises à jour, des messages encore, des appels et des rappels. Va donc lire un article, toi, au milieu de ce foutoir. La seule chose que tu peux faire, pris dans ce zapping incessant, c'est une lecture épileptique dont tu ne retiendras sans doute rien. Sur cette page, en revanche, tu l'auras remarqué, le calme règne. Respire, sens mon effluve d'encre et de cellulose. Palpe mon grain doux sous tes doigts. Écoute mes discrets bruissements. Il n'y a que toi et moi. On n'est pas bien ? Es-tu sûr de vouloir retourner dans la tempête numérique, sous prétexte qu'elle est plus jeune que moi ? Prends garde à ta réponse. Tu pourrais me froisser. Alors, ce petit article, moi, presse-papier, ce joli texte, est extrait d'un journal que j'affectionne particulièrement, qui est L'Âge de Fer, F-A-I-R-E. Certes, le papier est issu des arbres, mais des arbres, ça se replante. Tandis que, pour rappel, dans une émission passée, j'en avais déjà parlé, les data centers, eux, et je dirais les data centers classiques, consomment en moyenne 600 000 mètres cubes d'eau par an. Et, petite leçon de sobriété, l'envoi d'un mail avec une pièce jointe consomme l'équivalent d'une ampoule allumée pendant une heure. Bon, pas trop grave, pensez-vous. Oui, mais par jour dans le monde, ce sont 319 milliards de mails qui sont envoyés. Ces informations sont extraites du livre « Voyage au bout d'un lac » de Guillaume Pitron en septembre 2021. Mais revenons à la presse. Il y a presse et presse, bien sûr, car aujourd'hui, bon nombre de journaux sont la propriété de milliardaires. Des grands groupes possèdent une grande partie des médias français. Ainsi, 5 des 9 titres de la presse quotidienne nationale d'information sont possédés par des groupes extérieurs au secteur des médias. L'aéronautique, la défense, la finance, les télécoms. Ben oui, Lagardère, Dassault, Bolloré. Heureusement, il existe une autre presse, indépendante, qui, elle, se passe de ses requins et arrive tant bien que mal à survivre. Car il n'y a pas que l'aspect financier qui peut faire obstacle. Il y a, bien sûr, la foule d'informations véhiculées par le web, dont la transparence peut parfois ou souvent laisser à désirer. Et puis, autre volet important, la liberté de la presse. Il existait une loi de 1881 sur la liberté de la presse. Oui, mais voilà, le 4 janvier 2010, la loi Dati a modifié cette loi, donc cette loi de 1881, en particulier en ce qui concerne la protection des sources. Et depuis 2010, en France, 27 journalistes ont été intimidés par la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Ah, il ne fait pas bon parfois à soulever certains sujets sensibles, comme par exemple enquêter sur les migrants de la vallée de la Roya. En 2017, la journaliste Lisa Giacchino de L'Âge de Fer, qui enquêtait sur ce sujet, s'est retrouvée placée en garde à vue. Malgré tout, ça s'organise. En réponse aux états généraux de l'information voulus par l'Élysée et lancés le 3 octobre 2023, 100 médias et organisations, donc des syndicats, des collectifs de journalistes, des associations de défense des droits, ont organisé en octobre et novembre 2023, à l'initiative du Fonds pour une presse libre, les états généraux de la presse indépendante. Ils ont formulé des propositions pour libérer l'information et renforcer cette liberté fondamentale qui est le droit de savoir des citoyennes et des citoyens.
Qui défile aux portes du palais. Faut-il qu'on se méfie alors que le peuple a parlé? Les voilà qui s'arrangent selon leur convenance. Voilà qu'on les dérange, voilà encore qu'ils manigancent. Car c'est un jeu de dupes auquel ils nous convient. Tous ceux qui sortent des urnes doivent convenir à leurs envies. Si nous choisissons mal, ils changeront les règles. Pour qu'ainsi au final leurs mains ne lâchent pas les rênes. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie. On se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie. On se bat pour la démocratie. Ils ont le verbe haut et les bonnes manières. Ici Victor Hugo maîtrise la langue de Molière. L'art de la rhétorique dans leurs plus beaux habits. Parle de république et dîne avec les grands lobbies. Devant les caméras, tenus par leurs amis, ils nous pointent du doigt et nous recouvrent d'infamie. Mensonges et boniments sont le pain quotidien qu'ils offrent aux pauvres gens avalés et tout ira bien. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie. On se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie. On se bat pour la démocratie. Et moi je fais partie de ce peuple en colère, à qui on a promis à peu près tout et son contraire. Je ne peux plus les croire, ils nous ont tant abusés. Ils ne voulaient pas nous voir unis mais toujours divisés. Je suis de ceux qui s'opposent, de ceux qui dénoncent, de ceux qui proposent le chemin de la résistance. Démocratie en ton nom, nous relevons la tête. Nous voilà des millions comme un souffle que rien n'arrête. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie. On se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie. On se bat pour la démocratie.
Donc oui, la presse indépendante existe et se bat pour perdurer. Mais avant d'en parler, je vais faire une petite parenthèse. Nous avons de la chance à Florac. En octobre 2024, le tiers-lieu La Pompe a mis en place un point presse pour ajouter un service à la station-service, en fait le café de La Pompe, endroit fort sympathique et convivial. La Pompe se questionnait sur le fait d'être en mesure d'accueillir d'autres publics. Or, la presse est un service multiple qui touche des publics très variés. Aujourd'hui, le service existe, mais il faut savoir quand même que c'est très compliqué. C'est une grosse gestion, ça prend du temps. Il y a 250 à 300 références. La Pompe propose tous les quotidiens et magazines qui se disent de publication. Ça va des magazines de couture, les Sedoku, en passant par journaux télé ou People. Et de fait, des gens qui n'étaient jamais venus jusque-là viennent y acheter un magazine. Et comme dit Arthur de La Pompe, c'est parfois pour la grand-mère qui est à l'hôpital de Florac. Plutôt sympathique, non? Par contre, La Pompe n'a pas le choix des quotidiens et journaux politiques. Il y a obligation d'une pluralité. Et comme le dit aussi Arthur, ça va du meilleur au pire. Mais par contre, La Pompe a le choix pour les magazines. La Pompe est donc ouverte à demander aux gens ce qui les intéresse pour affiner leur choix. N'hésitez pas à aller au café de La Pompe et proposer des magazines. N'hésitez pas non plus, si vous avez un peu de temps, à donner un petit coup de main au café. Ils sont preneurs car, justement, le travail sur la presse leur prend beaucoup de temps. Mais revenons à notre sujet du jour, la presse indépendante, et voici quelques-uns de ses journaux et revues. Et pour commencer, mon chouchou, L'Âge de Fer. Créé en 2005, c'est un mensuel qui aujourd'hui est organisé en scope de 7 salariés. Le journal leur appartient, pas de pub, pas d'actionnaires, 90% des recettes proviennent de la vente et le reste correspond aux aides publiques à la presse. Ce journal, qui n'est pas vraiment égoïste, a même dans chaque numéro une rubrique intitulée « Les copains d'abord » où il informe par un petit résumé ce que d'autres revues indépendantes ont publié concernant des sujets d'actualité. Le contenu de L'Âge de Fer est varié, intéressant et écolo. Du plus petit article au dossier de plusieurs pages, on y trouve de quoi s'informer. Et ce que j'aime avec le papier, on pioche ce qu'on veut, puis on laisse, et plus tard on le retrouve quand on est disponible. Et là, pas d'indigestion. Il se dit lié à aucun parti politique. Certes, mais ce journal défend tout de même des valeurs notamment écologiques et sociales. Ainsi, pour exemple, petit article. La saga EPR continue. Je cite donc le journal. L'EPR de Flamanville devait coûter 3,3 milliards d'euros. C'était en 2006, avant le lancement du chantier. En 2020, la Cour des comptes estimait le coût total à 19 milliards d'euros. Janvier 2025, nouveau rapport des magistrats, nouvelle évaluation. 24 milliards d'euros. On vous a conté les péripéties de ce chantier rocambolesque tout au long de sa construction, aujourd'hui achevée. L'EPR a été raccordé au réseau fin décembre, mais ce n'est que le début de la saga EPR puisque l'État veut relancer la filière avec la construction de centrales EPR dont Flamanville est le seul modèle en France. Et là, le journal ouvre des parenthèses. Le programme EPR2 est marqué par un retard de conception, une absence de devis abouti et de plan de financement, alors qu'EDF demeure très fortement endetté, prévient la Cour des comptes qui poursuit. Les surcoûts de construction et les incertitudes sur la rentabilité des EPR font peser un risque sur l'État, actionnaire des projets. Voilà, petit article bref mais efficace. Et en voici un autre. Le commun attaqué par les confusions. Là, j'ai découvert quelque chose. Les nuits du bien commun, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces soirées destinées à recueillir des dons pour des structures agissant dans le secteur de la santé et du handicap, des précarités ou encore de l'environnement. Depuis 2017, les nuits se multiplient dans les grandes villes. Plusieurs millions d'euros de dons ont été levés au profit de ceux qui s'engagent quotidiennement pour transformer notre société, indique le site internet de l'événement. Transformer notre société, mais dans quel sens ? Parmi les heureux financés par les nuits du bien commun, on trouve des projets bizarres, tels SOS Calvaire, qui restaure des monuments religieux et dont les rassemblements regroupent des personnalités de la sphère identitaire, ou la chaîne YouTube de soutien scolaire en histoire, Je révise avec toi, présentant des vidéos bourrées d'inexactitudes, selon des historiens cités par Libération, passant sous silence certains pans de l'histoire, ou encore présentant l'islam comme uniformément menaçant et agressif. Parmi les cofondateurs et principaux financeurs des Nuits du Bien Commun, on trouve Pierre-Édouard Sterrin. Ce milliardaire, c'est lui les coffrets cadeaux Smartbox, a une vision bien à lui du bien commun. En 2012, à l'arrivée de Hollande au pouvoir, il s'évade fiscalement en Belgique pour échapper à l'impôt. Surtout, il n'avance pas masqué concernant son soutien à l'extrême droite. L'homme ne se cache pas d'être un des fondateurs et un des principaux financeurs, notamment du projet Périclès pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. Ce projet vise à imposer les idées d'extrême droite en finançant des écoles de journalisme, des médias, des formations d'élus. Les concepteurs de Périclès revendiquent dans un document viser une victoire du RN au municipal de 2026 en aidant le parti d'extrême droite avec un plan structuré et des équipes départementales chargées d'identifier les candidats potentiels poursuivant l'objectif de 300 villes à gagner absolument. Et l'âge de fer de conclure, le bien commun, le vrai, va devoir s'accrocher. Chose également intéressante, le journal a dessiné une carte des médias indépendants en France. Elle existe en poster et a été mise à jour en 2024. Et j'avoue avoir été heureusement surprise du nombre important de ces médias. Donc l'âge de fer, qu'on peut trouver à Biojour à Florac, ou sinon on peut s'abonner pour un an, 11 numéros, 33 euros. Bon, c'est raisonnable.
Des bruits de couloir, des bruits de couloir.
Voici une autre revue que j'ai découverte récemment, la revue Dessinée. C'est un trimestriel. La revue Dessinée, donc d'information en bande dessinée, est publiée en France depuis 2013. Le premier numéro est paru après une campagne de financement participatif. En parallèle de ce trimestriel, la revue Dessinée a une activité d'édition et de coédition, avec entre autres 100 000 ans, Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires en 2020, ou Capital et idéologie en 2022, adapté de l'essai de Thomas Piketty. Et par ailleurs, en juin 2019, la revue Dessinée, là, je dois le dire, elle ne l'a pas édité toute seule, elle l'a édité avec Delcourt, Algue verte, L'histoire interdite, une bande dessinée d'enquête d'Inès Leroux et Pierre Van Hove. Et je vais faire à nouveau une parenthèse sur les algues vertes. Et je vais vous lire, parce que cette BD est quand même assez importante, et je vais vous lire le quatrième de couverture. Depuis la fin des années 1980, au moins 40 animaux et 3 hommes se sont aventurés sur une plage bretonne, ont foulé l'estran et y ont trouvé la mort. L'identité du tueur en série est un secret de polichinelle. Son odeur d'œuf pourri le trahit, l'hydrogène sulfuré, H2S, émanant des algues vertes, arrive en tête de la liste des suspects. De nombreux citoyennes et citoyens ont lancé l'alerte à de multiples reprises, sans réussir à empêcher la répétition des accidents. Thierry Morfoise est ainsi décédé en 2009 après avoir charrié une benne d'algues en décomposition de trop. C'est seulement en juin 2018, 9 ans après son décès, que sa mort a été reconnue en accident de travail. Les algues maudites sont le symptôme d'un mal profond qui prend ses racines dans les lois de modernisation agricole des années 60. Leur fumée méphitique s'immisce dans une nébuleuse d'intérêt et de lâcheté, mêlant gros bonnets de l'agro-industrie, scientifique à la déontologie suspecte, politique craignant pour l'emploi ou leur réputation touristique. C'est ce que révèle l'enquête choc de la journaliste Inès Leroux et du dessinateur Pierre Van Hove. Voilà. Et avant de finir la parenthèse, je dirais qu'Inès Leroux a eu quand même pas mal de difficultés pour mener à bien son enquête et a eu pas mal de petits soucis. Voilà. Et puis, s'en est suivi d'ailleurs un film. Et également, il y a une interview d'elle sur France Inter, je crois, ou France Culture. Ah, là, je vais peut-être dire une bêtise. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé dur, qui a eu du mal à entendre et à voir les choses. Je ferme la parenthèse et je reviens à la revue Dessinée, qui publie généralement 5 grosses enquêtes, puis d'autres de format plus court. Ces enquêtes sont menées par des journalistes en binôme avec des dessinateurs. Ils vont parfois sur le terrain ensemble, l'un a son carnet de notes et l'autre son carnet de croquis. Ensuite, ils racontent le fruit de leur investigation et reportage avec ce langage de la bande dessinée. Voici ce qu'en dit un des auteurs. Grâce à la sensibilité et au langage très riche de la bande dessinée, on peut traiter des sujets parfois complexes ou sensibles avec des histoires humaines très incarnées, dont les protagonistes deviennent des personnages, et on arrive ainsi à transmettre des informations qui, parfois, nécessiteraient plus d'explications ou de démonstrations par un autre médium. Notre ambition est de nous positionner comme un organe de presse avec une place importante dédiée à l'enquête. Pour ce faire, nous utilisons le dessin comme un langage à part entière. Nous assumons une part de subjectivité liée au fait que, sur chaque sujet, se croisent des regards d'auteur, celui qui écrit et celui qui dessine. Cela élargit la perspective. Ensemble, ils s'approprient un sujet et le restituent à travers leur regard et leur créativité. Il s'agit d'un acte de création qui a pour objet le réel. Dans le numéro 42... de l'hiver 2023-2024 que j'ai emprunté à la médiathèque, Il y a un article intéressant intitulé « Le choc des cultures » de Inès Leroux, encore elle, et Léandre Mandard. C'est un petit roman graphique qui convoque un phénomène qui va laisser des traces dans les campagnes, le remembrement, qui démarra en 1946. Je vais vous lire juste l'introduction de ce petit roman graphique. Le terme, donc on parle du remembrement, le terme désigne le redécoupage des terres agricoles, ah c'est même pas 46, c'est lancé dans les années 1940 sous la direction d'ingénieurs agronomes obnubilés par la conversion de l'agriculture à la modernité. Les arbres sont abattus par milliers, les haies arrachées, les terrains nivelés et uniformisés, tout est bon pour permettre le passage des tracteurs et des semoirs gorgés de crènes standardisées, l'épandage des pesticides et des engrais. Autrement dit, pour laisser le champ libre à l'agriculture intensive. À la clé, une hausse incontestable des rendements, mais des dégâts écologiques inestimables. Érosion des sols, ruissellement, appauvrissement des écosystèmes et de la biodiversité. Des paysans ont vite observé les effets du saccage, comme le constataient dans le Finistère des journalistes de l'émission Télévillage, diffusée sur l'ORTF en 1971. Des kilomètres de talus brisants sont déjà tombés sous les bulldozers, témoigne le reportage exhumé par l'Institut national de l'audiovisuel. Ces remblais sont pourtant d'une très grande importance dans une région où la moindre perturbation atlantique devient pour nous une tempête, prévient un agriculteur. Mais le géomètre a établi son plan de telle sorte que le propriétaire soit obligé d'araser, soupire l'homme. Le remembrement n'a pas laissé de cicatrices que dans le paysage. Il a déchiré des villages qui, pourtant, se sont longtemps tus. Cela s'est fait dans le silence, sans que la population ait été consultée. C'est un écocide sans mémoire, estime dans l'Obs Nicolas Legendre, auteur de « Silence dans les champs », une enquête sur l'agro-industrie bretonne. Pour le journaliste, cette omerta annonçait d'autres se dresser contre l'agriculture intensive et sa quête effrénée de productivité, qui expose aujourd'hui encore à des représailles. Voilà, je ne vous lis pas tout, il faudra le découvrir. Et s'ensuit effectivement une vraie bande dessinée, là, pour le coup. Et donc, effectivement, qui montre des choses extrêmement difficiles pour les paysans, hein, pour certains qui perdent des bonnes terres et en récupèrent des moins bonnes, des arbres fruitiers arrachés. Voilà. Donc, à lire dans cette revue qui s'appelle la revue dessinée. C'est une revue riche d'informations, plutôt facile à aborder. Bon, reste le prix qui peut l'être un peu moins, 19 euros. Mais on le sait, le papier a un coût et une information fiable ne vaut-elle pas qu'on y mette le prix ? Par ailleurs, cette revue est disponible à la médiathèque de Florac. Autre découverte. Alors, une revue qui, elle, est annuelle, Brasero, née en 2021, est une revue d'inspiration libertaire. Je vais juste vous en dire un petit mot, car c'est une revue assez dense qui se définit comme revue de contre-histoire. Et de fait, je n'ai pas fini de la lire. Mais j'ai trouvé avec plaisir un article sur Julos Bocard, poète, musicien, chanteur, comédien.
T'es parti sur le coup d'une heure en février à la Chandeleur. Et l'hiver a repris vigueur au fond de mon cœur. Et l'hiver a repris vigueur au fond de mon cœur. Je suis resté seul sur le pont avec mes deux petits moussaillons. Il paraît qu'on t'a vu passer dans les pays de l'autre côté. Il paraît qu'on t'a vu passer dans les pays de l'autre côté. Ceux qui l'ont dit en ont menti. Car quand le soir est doux ici, Je sens ton sourire qui revient et la caresse de ta main. Je sens ton sourire qui revient et la caresse de ta main. Je sens que tu es tout contre moi, que ta fraîcheur pénètre en moi, que tu me dis dedans l'oreille des mots d'amour doux comme le miel. Pourtant des fois quand j'y pense pas, je me dis que je te reverrai pas. Je t'entends alors rire aux éclats.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas Julos Bocarn, cet homme a eu sa compagne assassinée par un déséquilibré alors qu'elle avait 33 ans. Cette chanson lui est dédiée. Alors, pour en revenir, voilà, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment plein d'émotions. Et donc, cette revue Brasero, elle peut s'acheter en librairie. Pour finir, donc, je vais vous parler aussi du syndicat de la presse Pas Pareil, qui, alors je cite, hein, promeut un journalisme combatif et engagé et défend le droit de chacun à participer à l'information. Il est aussi un outil de mutualisation pour ses membres et un organe de défense collective contre la répression, qu'elle provienne du pouvoir public ou patronal. Le projet répond à une urgence et à un besoin vital, celui d'une presse indépendante, combative, dotée de moyens et soudée en ces heures de multiples régressions sociales. Les attaques contre la presse, et plus particulièrement contre la presse indépendante, se sont en effet multipliées ces dernières années. Voilà, mais attention, loin de moi l'idée qu'il n'y ait que la presse papier. Et je me dois de rappeler que des radios comme Bartas sont des bouffées d'oxygène qui ont droit au chapitre et doivent hélas se battre pour continuer d'exister. Merci donc à Véro, Ben et toi Léo, sans qui tout ce que je viens de dire n'existerait pas.
Merci à toi Jacqueline, sans qui la radio n'existerait pas, grâce à ses bénévoles aussi.
Livres, BD,
films, musique,
jeux, spectacles.
Tu cherches? Tu hésites? Tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles dans
le chaudron des découvertes.
Sur Radio Barthès 107 FM.